Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue ma lecture des différents chapitres de la Bible de l'Observateur et je vais continuer aujourd'hui cette description et je vais vous emmener au travers des différents chapitres pour vous donner une idée générale, globale de ce que cet ouvrage contient, de quoi il parle, quelle en est l'ambiance, la tonalité et vous serez les premiers, vous êtes déjà les premiers à connaître son contenu. La date de sortie devra être ajustée. Je l'avais initialement prévu au 7 décembre, mais le formatage et la préparation pour la mise en ligne sur Amazon me prend un peu plus de temps que prévu. Il ne sera pas retardé de plusieurs semaines, on parle là de quelques jours. J'avais annoncé le 7 décembre en temps plutôt vers la mi-décembre, mais il ne sera pas décalé plus loin. Je me suis promis de le sortir avant Noël. Et je m'y tiens et je vous informerai de la date exacte de sortie, mais elle approche et elle sera décalée de quelques jours. Mais je me tâcherai de tenir cette date de la mi-décembre que je ne dépasserai pas. Sans plus tarder, le chapitre 16 s'intitule « Réalité de la condition masculine, une révélation ». Je vous lis le premier passage. « Je travaillais à Londres depuis près de 3 ans déjà et je m'y plaisais. Mon travail était prenant et motivant. Je m'étais constitué un petit cercle d'amis composé d'anciens colocataires, de collègues de travail et de quelques connaissances croisées au cours de mes nombreuses soirées. Je retournais souvent à Paris pour suivre des chantiers que l'un de nos clients avait dans la capitale. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de revoir Adam et la team et de renouer avec les montées d'adrénaline lors des quelques soirées passées à la butte aux cailles. Pourtant, je sentais poindre une frustration parce que je n'arrivais toujours pas à me satisfaire de ma vie de simple salarié. Certes, j'étais devenu chef de projet et je gérais mes affaires avec une relative autonomie, mais je savais au fond de moi que j'étais destiné à autre chose. Dans ce chapitre, je raconte comment ma découverte de la réalité de la condition masculine au travers du fameux documentaire The Red Pill, a aussi coïncidé avec une prise de conscience de ma propre condition. J'ai réalisé que je ne voulais plus rester le petit salarié qui attendait son salaire à la fin du mois. J'ai réalisé que je voulais et que je pouvais faire beaucoup plus. Le problème, ce que je raconte aussi dans ce chapitre, c'est que nous ne sommes pas éduqués à l'entrepreneuriat. On passe 18 ans à faire une scolarité dans laquelle on ne nous apprend rien ou pratiquement rien au sujet de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de l'argent d'une façon générale. 18 ans passés depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 23, de 24 ou de 25 ans si on fait un master ou de longues études, 18 ans pendant lesquels on ne nous apprend pas ce qu'est une TVA, ce qu'est une taxe, ce qu'est un impôt, on ne nous apprend même pas comment créer sa propre entreprise, on ne sait pas le faire et j'ai été obligé d'apprendre par tâtonnement. Et motivé par mes anciens collègues qui me disaient aussi que je devrais créer mon entreprise, ils me disaient gentiment que je faisais déjà le métier ou je faisais déjà les tâches d'un chef d'entreprise ou d'un associé de par mon organisation, de par la façon dont je pensais et que j'avais le potentiel de pouvoir gérer ma propre boîte. Et ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Monte ta boîte et on pourra même te suivre si ça marche bien. Vas-y, fonce !» Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et la chance que j'ai eue, c'était d'être en Angleterre où on peut créer une entreprise en 10 minutes chrono sur le site de Company House. C'est pas aussi compliqué qu'en France. On n'a même pas besoin de vous voir, on n'a même pas besoin d'imprimer des papiers, d'imprimer des documents, des justificatifs. Tout se fait sur Internet, on met son adresse et on n'a même pas besoin de donner de justificatif d'adresse. En fait, le système britannique part du principe que vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'on ne vous réclame aucune preuve, on ne vous réclame pas de quittance de loyer ou de quittance d'électricité, etc. On vous croit sur parole quand vous donnez vos informations. Par contre, s'il y a un contrôle et qu'il s'avère que t'as menti, là tu vas payer cher. Mais on part du principe que tu dis la vérité et que tu n'as aucune raison de mentir. Et donc on te demande pratiquement rien, on te laisse créer ta boîte et on te laisse commencer à commercer. Contrairement au système français ou au système latin d'une façon générale, hein, j'imagine que c'est la même chose en Italie, en Espagne, où on va te demander des justificatifs dès le départ parce qu'on va partir du principe que t'es un menteur jusqu'à preuve du contraire. Et c'est la différence singulière entre le monde anglo-saxon et le monde latin. Dans le monde anglo-saxon, on considère que tu dis la vérité jusqu'à preuve du contraire. Dans le monde latin, on considère que tu mens jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il faut que tu produises toute la paperasse et tous les justificatifs dès le départ. Donc, je raconte qu'un soir de novembre, je me suis connecté sur le site de Company House. Je voulais comprendre les étapes à suivre pour créer son entreprise au Royaume-Uni. J'ai alors naïvement suivi les étapes qui étaient indiquées sur le site, juste pour voir. J'étais persuadé qu'à un moment, les choses se compliqueraient et que je devrais alors consacrer un moment dédié pour terminer le processus plus sérieusement avec tous les documents éventuellement nécessaires à portée de main. Je faisais une montagne de la création d'entreprise. Seulement voilà, tout est resté simple jusqu'au bout et en moins de 20 minutes, mon entreprise était créée. Ce qui semblait insurmontable et truffé d'étapes complexes et de paperasses administratives à rassembler en France était d'une simplicité enfantine au Royaume-Uni. Et donc ce qui s'est passé, c'est que forcément, en étant entrepreneur et en travaillant pour moi-même, j'ai eu de moins en moins de temps pour sortir. C'est intéressant comme ma découverte du MGTOW et de la condition masculine a coïncidé avec ce moment de ma vie où j'ai été obligé de tellement travailler que finalement, naturellement, j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de draguer et ça ne me manquait même pas parce que mon but supérieur était celui de réussir au-delà de la moyenne, au-delà de ce que font tous les autres, était vraiment de me créer un destin hors du commun. Et donc forcément, quand tu veux un destin hors du commun, eh bien t'es obligé de prendre des mesures hors du commun. Comme on dit, si tu fais ce que tous les autres font, eh bien tu ressembleras à tous les autres. Et si tu fais uniquement ce que certains rares entrepreneurs illuminés par je ne sais quelle volonté ou quelle idée de réussite, parce que au départ, il faut être un peu fou pour devenir entrepreneur. Il faut avoir une espèce de fibre que très peu d'hommes ont. T'imagines, c'est un métier à haut risque, c'est un métier où tu ne sais pas si tu seras payé à la fin du mois, c'est un métier où t'as pas la fiche de paye qui tombe comme il faut à la fin du mois avec le même salaire tous les mois. T'as des mois où tu seras très bien payé, tu finiras des mois à 10 000, des mois à zéro. Il faut avoir une construction psychologique particulière pour pouvoir survivre à cet environnement stressant. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'entrepreneurs, parce qu'il y a très peu d'hommes capables de supporter cette instabilité et de supporter l'idée que, ben, à la fin de ce mois-ci, t'auras peut-être rien, et à la fin du mois prochain, t'auras peut-être 10 000, 20 000, 15 000, peu importe. Mais tu ne sais pas avec certitude ce que tu gagneras cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Et il faut une certaine constitution pour être capable de vivre avec ça. C'est pas quelque chose... Pour moi, c'est la chose la plus dure dans l'entrepreneuriat. C'est pas le fait de créer sa boîte, c'est pas le fait d'avoir des clients. C'est le fait de se dire « je travaille, mais je ne sais pas combien je vais gagner à la fin de ce mois-ci. Je ne sais pas si je vais même gagner quelque chose. » Et le raisonnement, il doit se faire sur l'année, sur les 3 ans, sur les 5 ans, où tu feras la moyenne de ce que tu as gagné. Mais sur le coup, as you go, de jour en jour, tu ne sais pas vraiment. Tu as des clients qui ne vont pas te payer ou qui vont mettre du temps à te payer. C'est un stress où il faut peut-être une certaine construction du cerveau, une certaine façon de penser pour pouvoir y survivre. Et tout en étant lancé dans cette entreprise, j'ai continué à m'intéresser au rapport homme-femme. Je suis allé sur Reddit, j'ai commencé à lire des articles et j'ai commencé à consommer du contenu pilule rouge qui circule essentiellement sur Internet, à découvrir des articles, des ouvrages incroyables. Et j'ai notamment commencé à lire sur le divorce, sur les choses incroyables qui se passaient aux États-Unis. J'en parle dans le livre et je donne des références et des exemples d'articles où on raconte des divorces où les hommes étaient obligés de payer des pensions alimentaires pour des enfants qui n'étaient pas les leurs. Il faut savoir qu'aux États-Unis, aujourd'hui, le test ADN dans certains États n'est pas reconnu. Et ce qui est reconnu, c'est la durée de temps ou le temps que vous avez passé avec une femme X. C'est-à-dire que tu peux élever, admettons, t'es marié, ta femme t'a trompé, tu vas élever un gamin qui n'est pas le tien et on va dire pour certaines raisons, t'arrives pas à identifier, il te ressemble à peu près parce que t'es blond, il est blond, t'es brun, il est brun et tu te dis bon, il ressemble à sa mère, t'as pas trop de suspicions. Mais un jour, comme ça, il y a un truc qui va pas, tu te poses des questions, tu vas faire un test ADN et tu réalises en fait que le gamin n'est pas le tien. Eh bien, si tu portes plainte aux États-Unis et que tu dis, eh bien, je veux divorcer et je ne veux pas payer de pension alimentaire parce que ce gamin n'est pas le mien, eh bien, si t'es resté en fonction des États, 12 mois, 16 mois avec la femme, tu es d'office le père de l'enfant, même si elle a fait ce gamin avec un autre, même si elle a baisé je ne sais combien d'hommes et qu'elle a eu des gamins qui ne sont pas les tiens. Dans certains cas, t'as des mecs avec 3, 4 gamins dont ils ne sont pas le père, eh bien, certaines cours de justice américaines vont te coller le gamin au cul. Et j'ai trouvé ça aberrant et ça m'a donné envie encore plus de chercher, de comprendre ce qui était en train de se passer, pourquoi cette injustice, pourquoi les tribunaux se mettent à pourchasser des hommes pour qu'ils paient les pensions alimentaires. Eh bien, la raison, c'est que comme l'américaine est devenue une poufiasse qui baise à tout va et qui n'a pas de contrôle de sa libido, eh bien, les tribunaux ont peur que ce soit l'État américain qui les prenne en charge et qui s'en occupe. C'est de ça qu'ont peur, en fait, les tribunaux. C'est que tous ces gamins illégitimes que les pères non biologiques ne veulent plus, dont ils ne veulent plus s'occuper, vous savez, il y a une célèbre citation aux États-Unis qui dit Alpha fucks and beta bucks. L'alpha baise et le bêta paye. Donc la meuf se fait baiser par un serveur, par je ne sais quel autre bonhomme, un pompier, un flic, peu importe. Elle a un gamin et ensuite elle va se trouver l'homme gentil qui va s'occuper du gamin. Hein? L'alpha baise, le bêta paye. Et l'État américain s'est mis dans la tête de faire payer les hommes, parce qu'ils ne veulent pas, ils ont peur s'il y a des centaines de milliers, des millions de gamins qui se retrouvent avec des pères qui ne veulent pas payer les pensions alimentaires, ils ont peur que ça soit un carnage social et que l'État américain, qui est un État libéral, va être obligé de payer ses pensions alimentaires comme l'aurait fait un État socialiste tel que la France. Hein. Je rappelle qu'en France, si vous ne payez pas la pension alimentaire, la CAF se charge de la payer pour la femme. Donc la femme gagne à tous les coups. Si elle arrive à te faire cracher une pension alimentaire, elle va le faire. Si elle n'arrive pas, eh bien la CAF va la payer. Donc quel intérêt pour elle de rester mariée? Vous comprenez pourquoi les femmes divorcent assez naturellement, parce que dans tous les cas, elles pourront gratter un petit billet. Et donc dans ce chapitre, je raconte comment j'ai découvert cette condition masculine et comment j'ai découvert aussi que les États se sont mis à la chasse des hommes. Les États se sont mis à pourchasser les hommes avec le but de les dépouiller de leur argent. Le but aujourd'hui, c'est de transférer l'argent des hommes vers les femmes par tous les moyens. Les impôts y contribuent, la CAF y contribue, les tribunaux aussi y contribuent. Dans le chapitre 17, je vous parle de la découverte du MGTOW. Ce chapitre s'intitule à juste titre « À la découverte du MGTOW ». Je vais vous en lire un petit extrait. Sur le site internet The Nice Guy, la phrase d'accueil était sans ambiguïté. On lisait « Les hommes qui prennent leur propre chemin est la réponse rationnelle d'hommes de raison à une société devenue folle ». Ce site était une référence dans la communauté. Si le constat fait par les MGTOW concernant la condition de l'homme dans les sociétés occidentales rejoint celui des MRA, des Men's Rights Activists, ils divergent dans leurs solutions. Contrairement aux MRA, les MGTOW ne réclament pas de droits et ne demandent pas un changement des lois. Les MGTOW partent du principe que le jeu est truqué. Selon eux, les dés sont pipés et il est temps d'arrêter de jouer à ce jeu absurde. Mais avant d'être un mouvement, le MGTOW est d'abord une philosophie et une remise en question profonde des sociétés occidentales. La position des MGTOW fait écho à une citation de Jiddu Krishnamurti qui disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade ». Entre autres choses, les MGTOW critiquent le contrôle grandissant des gouvernements sur la vie privée et regrettent la perte des libertés individuelles. Ils considèrent que les États fabriquent des lois à leur guise afin de contrôler les masses. Ainsi, seuls les États décident de ce qui est bon pour nous. En réponse, les MGTOW militent pour un retour à un gouvernement limité, tel que l'avaient pensé les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, avec un libéralisme politique et économique complet. Cependant, force est de constater que même les politiciens et les économistes ne s'accordent pas sur la forme exacte du gouvernement limité. Dans ce chapitre, j'aborde quelque chose qui est très peu connu dans le MGTOW, qui est cette idée du gouvernement limité. C'est vrai qu'on connaît les MGTOW comme les hommes qui prennent leur propre chemin par rapport aux femmes, mais la réalité, c'est que le MGTOW englobe une philosophie beaucoup plus large et qui est les hommes qui prennent leur propre chemin par rapport à la société dans sa globalité. C'est de refuser de jouer à ce jeu truqué autant économiquement que politiquement que socialement et au travers des rapports hommes-femmes qui ne sont qu'une partie du MGTOW. Et beaucoup d'entre vous vont être choqués par le fait que les MGTOW poussent à un libéralisme et sont pour un gouvernement limité. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nous ne vivons pas un vrai libéralisme. Nous vivons un communisme déguisé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le libéralisme, c'est la main invisible d'Adam Smith. Le libéralisme, c'est quelque chose qui instaure le libre-échange entre les individus. Et tout ce qui ne fonctionne pas doit mourir, tout ce qui ne fonctionne pas doit disparaître. Une société pourrie, une économie pourrie doit disparaître. Sauf que vous aurez constaté qu'il s'est passé quoi récemment? Ou plutôt il y a quelques années déjà. Lorsque les banques ont failli s'effondrer en 2008, qu'est-ce que les États ont fait? Ils ont renfloué les banques avec l'argent des impôts. Et ça, ce n'est pas du libéralisme. Le libéralisme aurait laissé les banques s'effondrer. Le vrai libéralisme, le libéralisme d'Adam Smith, le libéralisme qui était à l'origine de la fondation des États-Unis d'Amérique, est un libéralisme qui veut que tout ce qui ne fonctionne pas économiquement, tout ce qui est pourri, ne soit pas aidé par l'État, mais doit s'effondrer. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est un libéralisme pour les pauvres, un libéralisme pour les petites gens. Donc toi, si ton business s'effondre, eh bien, c'est pour ta gueule et personne ne viendra t'aider. Par contre, les banques peuvent jouer, peuvent manipuler, peuvent investir dans des produits toxiques si elles gagnent. Eh bien, c'est pour elles, hein, tu n'en verras pas la couleur. Mais si elles perdent, les États, tel un État communiste, tel l'URSS, renflouent ses banques avec l'argent des particuliers. Il est là le danger. Et c'est là qu'on comprend qu'en réalité, on n'est pas dans du libéralisme. On est dans du libéralisme pour les petites gens, pour les salariés, pour les gens moyens, les hommes et les femmes du quotidien. Mais on est dans du communisme lorsqu'il s'agit des grandes entreprises et des banques. Parce que ces gens-là, à chaque fois qu'ils perdent, à chaque fois qu'ils sont en difficulté, eh bien les États viennent les aider et les renflouent. Et donc nous sommes dans un communisme déguisé qui sert en réalité, les grands intérêts. Et quand on dit que oui, on va vers une capitalisation, un extrême capitalisme, on va vers un libéralisme, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Les médias sont contrôlés par les mêmes personnes, les impôts sont de plus en plus élevés parce qu'il y a l'État prend tellement de place qu'il devient de plus en plus cher à payer. Aujourd'hui, par exemple, le salarié est plutôt bien payé. Je vais vous choquer en disant ça, mais un salarié français, quand tu gagnes 2000 euros par mois, par exemple, ta fiche de paye, elle commence à 4700. Elle commence même à plus si tu comptes l'impôt sur le revenu, etc. Les charges sociales que paye ton patron. Mais tu commences à 5000, hein, en brut. Tu te fais nettoyer et à la fin, il te reste 2000 sur ton compte bancaire. Et c'est ce type d'État que les MGTOW sont en train de critiquer. C'est ce type d'État qui prennent de l'argent et c'est de l'argent qui est mal dépensé. Parce qu'une fois qu'ils ont pris cet argent sur cette fiche de paye, qu'ils t'ont tapé 50 ou 55%, parce que même si toi, tu ne gagnes que 1 000, 1 600, 1 700 ou 2 000 euros, je peux te dire que ton patron, lui, il te paye très très cher. Et ses charges sociales sont aussi très élevées, pratiquement 40% en France. Quand toi, tu touches 1 000 euros ou quand il te paye 1 000 euros, lui, il a payé 1 400 euros de charges sociales. Et ensuite, il y a les impôts qui s'accumulent. Ce qu'on paye comme impôt est énorme. Et pour que cet impôt aille à la CAF qui va payer des pensions alimentaires de meufs qui ont baisé à droite à gauche, ou que ça aille payer de nouveaux arrivants, de nouveaux migrants, ou que ça aille payer des dépenses pour l'Union européenne, des routes. J'ai pris quelques jours de vacances récemment aux Canaries et j'ai été stupéfié par la qualité des routes. J'étais à Fuerteventura et les routes sont magnifique, goudronné. Et je parlais avec un chauffeur de taxi en lui disant « Mais c'est impressionnant la qualité de vos routes, c'est vachement bien entretenu. » Et il me répond « Ben, merci à l'Union européenne. » Et je me dis « Il y a des Français qui sont en train de payer pour des routes aux Canaries. Il y a des Français, quand on n'arrive pas à réparer nos propres ponts et nos propres routes, on a de l'argent qui est injecté dans des routes aux Canaries qui sont techniquement l'Espagne. » Et est-ce que on le sait, très peu de personnes sont assez éduquées, très peu de personnes se renseignent pour le savoir. Mais aujourd'hui, est-ce que il faut continuer à accepter ça? Est-ce qu'il faut continuer à accepter de payer des impôts? Et si On baisse le coût de fonctionnement de l'État si on arrête de contribuer à l'Union européenne, si on arrête des dépenses pour les programmes X et Y dont on ne connaît même pas les utilisations, les fondations qu'on finance à droite à gauche, Marlène Schiappa et son gouvernement qui doit coûter une fortune et on ne voit pas, ou plutôt Marlène Schiappa et son secrétariat qui doit coûter une fortune et on ne comprend pas trop à quoi elle sert et où elle va, eh bien on est en droit de dire, ben, ce secrétariat, vous le supprimez, secrétariat aux droits hommes-femmes, pourquoi? Ou plutôt secrétariat qui s'occupe des rapports hommes-femmes, mais à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi je vais payer un centime, ne serait-ce qu'un centime de mes impôts pour cette merde? Et dans la continuité, je parle donc du système éducatif et de la façon dont les écoles aujourd'hui sont inappropriées aux garçons, parce que les garçons apprennent différemment que les filles. Et qu'on remarque donc une quantité incroyable d'hommes qui quittent les écoles, qui quittent les universités. Le nombre de femmes dans les universités a augmenté de façon exponentielle. On en est à 55 ou à 60% de femmes pour 40 ou 45% d'hommes dans les universités. Les universités se féminisent de plus en plus. C'est des endroits où on commence à y diaboliser la présence masculine. Dans les écoles, il y a pratiquement plus de professeurs des écoles, essentiellement des femmes. Et les hommes sont, quand ils enseignent, dans la petite enfance, ils sont suspectés de pédophilie et beaucoup d'enseignants, beaucoup d'hommes enseignants quittent le milieu enseignant parce que les histoires de pédophilie les mettent mal à l'aise. Et il y a dans l'enseignement tout un microclimat qui tend à diaboliser les hommes. Et donc ce chapitre, la découverte du MGTOW, je vous le raconte tel que je l'ai vécu. Hein. C'est un peu l'idée du livre. Ce n'est pas un livre qui commence en disant je sais tout et voilà comment ça se passe. C'est un livre où vous allez découvrir avec moi le MGTOW, où vous allez découvrir mon évolution telle que je l'ai connue depuis les débuts naïfs jusqu'à un niveau d'expertise plutôt avancé que j'ai eu en lisant, en m'y intéressant, en écoutant autant en anglais qu'en français. Le chapitre 18 s'intitule Comprendre la nature féminine. Je vais vous en lire quelques extraits. Lorsqu'il s'agit de nature féminine, les MGTOW ne sont pas tendres avec les femmes, tâchant de prendre en considération la réalité et non de voir les choses telles que les romantiques du XIXe siècle, le cinéma moderne ou encore la bien-pensance médiatique voudraient qu'elles soient. Il s'agit de comprendre la femme sous le prisme de l'évolution, des impératifs biologiques nécessaires à sa survie, car c'est aussi grâce à ces traits de caractère que la vie s'est transmise et que l'espèce humaine a survécu au travers de millions d'années. Et ce savoir est indispensable à tout homme qu'il souhaite ou pas se lancer dans une aventure romantique. Dans ce chapitre, je parle de nature féminine et je précise qu'il ne s'agit pas de dire que la femme est bonne ou mauvaise, il s'agit simplement de la prendre et de la comprendre telle qu'elle est. Dans ce chapitre, je parle d'hypergamie de façon technique et détaillée. Et j'ai produit un petit schéma de pyramide qui explique comment fonctionne l'hypergamie et comment, à cause de l'hypergamie, ou plutôt comment l'hypergamie génère de la misère sexuelle. Parce que si on prend l'hypergamie comme deux grandes pyramides, les femmes du bas de la pyramide peuvent avoir les hommes du bas de la pyramide et les hommes du milieu de la pyramide, mais les hommes du bas de la pyramide ne peuvent pas avoir les femmes du bas de la pyramide à cause de l'hypergamie. Les femmes veulent toujours des partenaires d'un statut socio-professionnel et d'un physique supérieur au leur. Et donc cette nature même fait que il y a un déséquilibre qui se crée, surtout dans les grandes villes où le ratio d'hommes-femmes est déséquilibré, il y a plus d'hommes que de femmes, et finalement l'hypergamie ne contribue uniquement, ou plutôt l'hypergamie ne sert uniquement qu'aux hommes au sommet de la pyramide. Si vous n'êtes pas dans le top 10% de cette pyramide, vous êtes en difficulté ou vous êtes en souffrance parce que ce top 10%, à cause de l'hypergamie des femmes, arrive à baiser l'intégralité de la pyramide alors que les autres vivotent, les hommes du milieu de la pyramide peuvent aspirer ou aux femmes équivalentes classe et physique moyen et aux femmes du bas de la pyramide, alors que les hommes du bas de la pyramide, eux, ils sont complètement exclus et c'est les 30% qui vivent la misère sexuelle ou qui ont des difficultés plutôt à rencontrer une partenaire. Et encore une fois, il ne s'agit pas de pleurnicher et de dire c'est pas bien, c'est bien, faut que ça change. Non, il s'agit de la comprendre telle qu'elle est. C'est ça la nature féminine et l'homme qui ne l'a pas comprise est voué à souffrir. Donc c'est un chapitre assez long où je parle aussi de la loi de Brifo et de ses corollaires et des différents détails de cette loi, qui est, je vous avoue, un chapitre très intéressant que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Cette loi de Brifo qui nous explique que la femme a le veto ultime dans le jeu sexuel, et ce sont surtout les femmes qui approuvent les avances ou les propositions des hommes, d'où l'adage populaire qui rappelle à juste titre, les hommes proposent et les femmes disposent. Le chapitre 19 s'intitule Aux origines du MGTOW. Et là, je vous envoie dans un voyage qui nous emmène jusqu'au 19e, voire jusqu'au 13e siècle, où j'explique que le MGTOW n'est pas simplement une nouvelle tendance, mais qu'il a toujours existé. Je vous lis le tout début de ce chapitre. Je vous en dirai pas trop parce qu'il faut quand même que je vous donne encore l'envie de le lire. Faut pas que je vous raconte la totalité. Mais ce chapitre est génial parce qu'en fait, il va dans l'histoire récente du MGTOW et il remonte jusqu'au MGTOW beaucoup plus ancien, tel que le Bachelor's Club, qui nous explique comment, depuis tout temps, des groupes d'hommes ont résisté au mariage, ont résisté aux demandes irréalistes des femmes. Et je vous lis juste le début de ce chapitre. Contrairement à ce que l'on pourrait lire dans la presse ou dans les médias officiels, les MGTOW ne constituent pas un groupe homogène qui parle d'une seule voix. La presse les a qualifiés de nébuleuses masculinistes, mais il s'agit davantage d'une simplification utilisée par ces médias pour étouffer un phénomène qui ne s'aligne pas sur la pensée dominante. Comme bien souvent, diaboliser et manipuler par la peur est le meilleur moyen d'isoler pour ensuite étouffer les théories non conventionnelles. Parmi les MGTOW, on trouve beaucoup d'hommes divorcés qui luttent pour récupérer la garde de leurs enfants, des hommes qui ont eu des problèmes avec la justice et qui ont peut-être fait de la prison parce qu'ils n'ont pas payé une pension alimentaire. On trouve aussi des hommes trahis, trompés et parfois ruinés par leur ex-compagne. Ce sont souvent des hommes qui ont aimé les femmes, qui les ont respectées, fréquentées et qui ont fini par comprendre que le sacrifice fait par l'homme qui s'associe à une femme est trop cher payé. Je détaille ensuite les différents niveaux de MGTOW et je bascule ensuite dans le volet historique que je vous laisserai découvrir et qui remonte aux vraies origines du MGTOW avec des extraits d'articles et des histoires qui remontent à plusieurs siècles en arrière que j'espère vous allez savourer. Et ce livre se conclut et se termine avec le chapitre 20 qui s'intitule « J'ai pris mon propre chemin ». Je vous en lis un petit extrait, rien que pour vous. Ce podcast ne sera disponible nulle part ailleurs, hein, c'est uniquement pour Patreon. Ma découverte du MGTOW a coïncidé avec une nouvelle phase de ma vie. J'avais déjà commencé à travailler pour devenir la meilleure version de moi-même. J'ai alors naturellement commencé à me détourner de la drague et des femmes d'une façon générale. Non que je n'aimais plus les femmes ou le sexe, mais je n'avais plus de temps à y consacrer. Ma petite entreprise d'architecture, les honoraires, mes projets divers, le sport, les voyages, ne me permettaient plus d'y consacrer du temps. J'avais tout simplement trouvé mon but supérieur. Baiser, car c'est bien de cela qu'il s'agissait, était devenu une fonction vitale, comme manger ou dormir. Mais cela n'était plus associé à l'amour, à la famille et encore moins à la procréation. Je me suis alors mis à fréquenter des prostituées et des escort girls, c'est le mot à la mode. Contrairement à la majorité des hommes qui le font pour fuir la misère sexuelle ou un mariage et une femme qui n'arrive plus à les satisfaire, je le faisais pour une raison bien pratique, avoir la paix. Et le chapitre continue avec mes histoires, mes rencontres et ma découverte surtout de la prostitution et comment j'étais surpris par ce milieu que je pensais décadent, sale, qui est en réalité un milieu, lorsque c'est bien fait, dans les pays où c'est légal, très organisé, très plaisant et où on peut s'amuser dans le respect de l'autre. Et j'invite tout homme à faire cette expérience. D'ailleurs, dans la culture française, la prostituée n'a jamais été quelque chose de tabou. Les pères emmenaient leurs enfants à aller avoir leur première expérience sexuelle avec une prostituée. Et ce n'était pas déconnant d'emmener son gamin à avoir sa première expérience sexuelle avec une pute. Sauf que aujourd'hui, avec la féminisation de la société, avec le féminisme, les putes ont été un peu exclues de la société, parce que qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles baissent la valeur de la femme et la valeur du sexe sur le marché. Quand le sexe est partout, quand le sexe est disponible, quand tu peux baiser à chaque fois que tu en as envie, que devient vraiment la pression que peut mettre une femme sur toi? Tu comprends? Si tu vas en Allemagne, si tu vas au Artemis Club, tu vas voir des hommes détendus, heureux, cool. Les mecs ont fini leur journée à l'usine, chez Volkswagen, chez Mercedes, peu importe. Ils arrivent et ils se détendent avec une magnifique gonzesse qui leur fait passer un bon moment. Les mecs, ils sont heureux, quoi. Comme je l'ai déjà dit, ça m'étonne pas qu'ils fabriquent des Mercedes. Le mec, il est détendu. Et les femmes et les féministes ont tout fait pour diaboliser la prostitution parce que justement, ça casse leur marché, ça casse leur business qui est de maintenir les hommes dans cette misère sexuelle pour pouvoir mieux les manipuler. Elles ont compris que leur chatte, la chatte en or, était en fait leur pouvoir. Voilà pour aujourd'hui. Je vous promets le livre dans très 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 bientôt. Ça ne dépassera pas le 15 décembre et je me tâcherai de respecter cette date. Je finis les quelques détails de formatage avant que vous puissiez enfin avoir le plaisir de le lire. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.